Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi, en direct de 17h à 18h pour une heure de débat et une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, on devait lui attribuer le trophée de meilleur régisseur intervenant hier soir, mais ce trophée n'a pas encore été créé, c'est Julien Mathieu, salut Julien.
Salut Gilles, bonjour à tous.
Nous avons aussi Shaima, stagiaire de Marmite FM, donc forcément chroniqueuse dans l'émission, donc forcément intervieweuse en chef tout à l'heure pendant l'interview de notre invité. Salut Shaima.
Salut, salut à tous.
En bon compétiteur qu'il est, pendant une période de play-off, il sort des shoots radiophoniques à 3 points, le plus souvent sur la tête des fouteux du dimanche. C'est Nouradine Hagne, salut Nouradine.
Bonjour à toutes les auditrices, les auditeurs, salut Gilles.
Notre invitée aujourd'hui sera présente par téléphone dans une quinzaine de minutes. Elle est vice-présidente du club de gymnastique d'Elancourt-Maurepas, c'est Morgane Goulard. Elle sera donc avec nous dans quelques instants pour évoquer la grande compétition qui aura lieu au Vélodrome du 24 au 26 mai, les championnats de France par équipe de gymnastique. Nous rediffuserons également l'interview d'Olivier Bocquel, vice-président du club de basket de l'entente Le Chesnay-Versailles. Retour sur le bilan de l'équipe versaillo-chénésienne et les prochains événements qui animeront la vie du club. Allez, tout de suite, on écoute le sommaire de l'émission. Dans une quinzaine de minutes, attention, événement à ne pas manquer. Les championnats de France par équipe de gymnastique seront organisés pour la première fois du 24 au 26 mai au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est déjà dans quelques jours et nous aurons au téléphone Morgane Goulard, vice-présidente du club de gymnastique d'Elancourt-Maurepas. Elle fait aussi partie de l'organisation et elle nous donnera tous les détails de cette compétition. Mais nous allons commencer par le premier temps fort de l'émission. Nous allons revenir sur l'avant-dernière journée de Ligue 1, riche en enseignements puisque nous apprenons qu'au moins la moitié du top 6 va changer son staff pour la saison prochaine. Et nous allons évidemment revenir sur ce coup de tonnerre hier. La langue de Kylian Mbappé n'a pas été brûlée par le dragon de Daenerys Targaryen. Désolé pour les spoils. Les mots qui en sont sortis demeurent en tout cas brûlants puisqu'il ouvre la porte à un départ. Et nous, ça y est, on ouvre la porte, hein, débat.
Hé, hey, Toshiba, là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, notre connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye, là, pour jouer avec tes pieds, connard?
Ouh, et pour le coup, on le paye très cher, le pied de Kylian Mbappé. mais qui apparemment peut se renégocier et être récompensé d'une revalorisation salariale en forte hausse d'après ses déclarations tonitruantes hier soir. Donc on vous replante un petit peu le contexte.
Ouais,
Kylian Mbappé qui reçoit le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 de la saison, donc le trophée UNFP lors de la fameuse cérémonie.
Meilleur joueur et meilleur espoir d'ailleurs.
Meilleur espoir et meilleur joueur, enfin ça c'est une bêtise, ça n'a pas lieu d'être selon moi, mais en tout cas sa dernière phrase n'a pas dû la direction du PSG n'a pas dû apprécier les derniers mots de Kylian Mbappé au moment où il reçoit cette récompense. Clairement, enfin, il a un peu le masque, Kylian Mbappé. On ne le sent pas vraiment joyeux de récupérer cette distinction. C'est quand même la première fois qu'il remporte ce trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Mbappé qui dit tout simplement bon bah ok, je suis peut-être à un tournant de ma carrière, je veux plus de responsabilités, ça se fera au PSG mais peut-être aussi ailleurs, pourquoi pas. Qu'en pensez-vous messieurs, Julien, Nouradine, à la fois du timing, à la fois du contexte, je sais pas, enfin si moi je fais un discours à l'ONU, bah je vais pas dire au sommet de l'ONU en même temps je fais des essais nucléaires avec des missiles. voyez, bah, c'est un peu ce qu'il a fait hier, Kylian Mbappé, non?
C'est moi qui commence.
Vas-y, Nouradine, je te laisse.
Bah, écoute, en fait, moi, cette déclaration m'a étonné, dans le sens, je me demandais quel est l'objectif, en fait, de Kylian Mbappé et surtout le timing pendant qu'on te remet une distinction. Alors, la première chose sur laquelle on peut s'interroger, déjà, c'est pourquoi il remercie surtout le président en premier, en disant, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'intervention complète où il dit, voilà, il a connu une tragédie, etc. Donc, on se dit, bon, quand même, il est sympa, le gamin, il fait attention à ce qu'il a dit, il fait attention à un truc un peu humain, quoi, tu vois, en disant, voilà, il fait attention quand même à son entourage de club, et il a une pensée pour le président du club, qui est aussi cible de critiques, notamment par rapport à la gestion du club. Et dans la même phrase, à peine 10 secondes plus tard, en disant le PSG, ce sera au PSG, et qui veut plus de responsabilités, et si ce n'est pas là, bah, ça pourrait être ailleurs, moi, je ne comprends pas ce qu'il veut. Est-ce que c'est une revalorisation salariale qu'il veut dès maintenant?
Ça, ce serait surprenant quand même.
Est-ce que c'est par rapport à une position sur le terrain où il est en train d'envoyer clairement comme message, bon, écoute, moi, j'ai envie de jouer neuf. Apparemment, vous allez garder Cavani. Peut-être qu'on va encore jouer à 3, mais moi, j'ai envie de jouer neuf. Sinon, il y a le Real qui va me prendre.
Ça, c'est la version enchantée quand même des supporters parisiens qui idéalisent. Ça, c'est un peu la version enchantée du supporter parisien qui ne comprend pas encore ce qui se passe là. Enfin, Mbappé, même s'il joue à droite, s'il veut aller dans l'axe, il va dans l'axe en cours de match.
Oui, mais en tout cas, avoir un poste de numéro 9 officiellement, sans avoir à dire que bon, il y a des permutations, c'est ce qu'on dit dans le foot. Voilà, on permute entre l'attaquant qui peut basculer sur le côté gauche et le mec du côté gauche qui vient piquer dans l'axe. Voilà, c'est des permutations qui peuvent être naturelles. Mais toujours est-il que son poste officiel, c'est pas numéro 9. Donc, ouais. Est-ce qu'il est en train de dire, moi, je veux être numéro 9 de cette équipe?
De manière générale, il est tout simplement en train de dire.
Je te coupe, Gilles.
Ouais, vas-y.
La solution, c'est vraiment, il est en train de dire que indirectement à son club, bon ben écoutez, je suis en négociation avec le Real de Madrid et je commence à mettre déjà. Je sais que mon club voudra pas me laisser partir, mais je commence déjà à mettre la première pierre en disant, préparez-vous, hein, je vais peut-être partir. En fait.
Bon, en tout cas, il se met clairement au-dessus du club. Il dit, je prends le pouvoir.
Ah oui, ça c'est clair.
C'est ça le problème du PSG. De toute façon, les joueurs sont toujours au-dessus de l'entité. Donc,
ouais, mais bon, c'est pareil partout, Julien. Hein. À Barcelone, l'institution n'est pas au-dessus de Messi. Hein. Messi, il y a eu des moments où il n'a pas hésité à faire jouer la concurrence madrilène pour négocier ses contrats aussi. Hein.
Donc là, tu sous-entends qui il est, Mbappé, pour se mettre au-dessus de... Parce que là, Messi et Ronaldo, c'est quand même à part.
Bah, il prend ses aises en tout cas. Ouais, il prend le pouvoir. Après, on peut dire, il est culotté de dire à son âge, alors que... Il a concrètement il a une étoile sur le maillot bleu,
ouais.
Ça a quand même son importance, mais il n'a jamais remporté Ligue des Champions, il n'a jamais été Ballon d'Or ni Soulier d'Or.
Non, mais c'est pas grave ça.
Mais quand même.
Enfin, tu n'as pas encore compris le foot, Gilles Bombard.
Non mais Noradine, le Messi à le 0 Ballon d'Or, c'est pas
oui.
le Messi à 4 Ballon d'Or qui dit bon bah les gars, augmentez-moi, je me casse, tu vois. Mbappé, il a aucune distinction majeure individuelle.
Le Messi qui est pas encore Ballon d'Or, il n'est pas dans la même situation, dans la même configuration. Il n'est pas encore dans la même configuration que Kylian Mbappé aujourd'hui. À l'époque, en fait, Messi, quand il a son premier Ballon d'Or, c'est en quelle année son premier Ballon d'Or?
2009, un truc comme ça.
En 2009.
Ouais, j'aurais dit 1950, tellement ça fait depuis longtemps Ballon d'Or avec Cristiano.
Bon, en tout cas...
Mbappé, c'est un peu la tête de gondole du PSG, enfin du projet du PSG là avec Neymar, donc c'est vrai que c'est différent.
C'est quand même un joueur qui a coûté 185 millions d'euros. Lui, Messi, il a été formé à la Masia. Même si c'est un club sur lequel ils ont, enfin c'est un joueur sur lequel ils ont investi, parce que tu sais, ils ont dû l'opérer, voilà, ouais. Il a dû suivre un traitement qui a été pris en charge par le club, etc., etc. Voilà, il y a une histoire entre les deux, et il s'est avéré que voilà, c'est devenu peut-être le meilleur joueur du monde. Donc effectivement, c'est maintenant que Messi a vraiment ce pouvoir-là, mais avant d'être Ballon d'Or, il n'avait pas ce pouvoir-là parce qu'on n'était pas encore dans cette configuration du football. Le football maintenant, c'est argent. Et quel est mon pouvoir financier par rapport au club à qui j'appartiens? un joueur qui coûte là 100, qui coûte presque 250 ou peut-être 300 millions d'euros, c'est lui qui forcément tient les rênes, tient les cordes de la bourse, parce que c'est lui qui est le produit, et il sait qu'il est son propre produit, il va aller où il veut, quoi. Et c'est lui en fait qui devient, contrairement à avant où on pouvait dire à un joueur t'es pas content, je te mets sur le banc et tant pis pour toi. Mais là, ça c'est rare, ça, maintenant. Je vois rarement ça. Les joueurs veulent où ils veulent aller. Et s'ils y vont pas, ils font grève, ou ils font des trucs et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on voyait pas avant. Donc, effectivement, le Kylian Mbappé, là, par rapport à ce qu'il vaut, il sait ce qu'il vaut. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui lui permet. Il sait que le club a besoin de lui, parce que le club, c'est sur lui qu'il a fait ses 6 ou 7 prochaines années. Et sur, imagine Kylian Mbappé part demain, là. C'est chaud, quand même, pour le PSG. Même si Neymar reste.
Justement, comment doit réagir le PSG, du coup? Les dirigeants, là, comment ils doivent réagir, selon vous?
Voilà, je pose une question. Si je savais comment ils doivent réagir, je crois que...
Moi, j'ai ma petite idée. Hein. On a, souvenez-vous, la jurisprudence Verratti. Le Barça qui fait le forcing il y a quelques années pour côté Verratti. Nasser ferme bien la porte alors que l'agent de Verratti a fait quand même le forcing pour qu'il rejoigne le Barça. Nasser ferme la porte à double tour et pour se venger, recrute Neymar dans la foulée. Donc c'était seulement je te lâche rien, mais en plus je te vole ton meilleur élément.
Non, la vengeance de Neymar, c'est pas le meilleur élément. Le meilleur élément, c'est Messi. la porte elle s'est fermée et lui, ils ont acheté Neymar aussi à cause de la remontada. C'est plus simple que si il avait juste eu une tentative de récupérer Verratti, mais que le PSG avait tapé Barça. Ils n'auraient jamais acheté Neymar. Hein. En tout cas, c'est mon avis. Ben, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient déjà convoquer le joueur, avoir une discussion avec lui et essayer de comprendre. Ben, écoute, gamin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as dit ça? Est-ce que t'as un problème, etc. De toute façon, ils sont obligés ils vont pas le mettre sur le banc. Ils peuvent le retenir, ça c'est sûr. Oui, tu peux le retenir parce que vu qu'il a un contrat jusqu'à 2023 ou je sais pas quoi, ben, c'est sûr. Donc le joueur est pas complètement Il n'est pas complètement stupide. Il sait qu'il y a un contrat. Et en plus, contrairement à ce qui se fait en Espagne, là, il n'y a pas de clause de départ.
C'est-à-dire qu'ils doivent trouver un deal, quoi. Le club acquéreur et le PSG doivent trouver un deal.
Voilà, c'est ça.
Bon, en tout cas, vous mettez dans la tête là, du coach Thomas Tuchel et puis des joueurs qui étaient en face de lui au moment où il fait son discours, où il prend de court tout le monde.
Qu'ils font comme tête?
Il ne monte pas en direct la tête du coach au moment où il dit ça, il dit ça plutôt à la fin de son discours, Mbappé. Mais bon, c'était quelque chose qui avait été calculé, on pense, par son clan, mais qui n'avait pas du tout été partagé avec ni le coach, ni les autres cadres de l'effectif, quand même. Le capitaine Thiago Silva, vice-capitaine Marquinhos, à leur place, moi, je l'aurais mal.
Qu'est-ce que tu veux faire en même temps, Gilles? Il a quel âge, Mbappé? Il a même pas 20 ans.
Il a 20 ans.
Il a 20 ans.
Il faut aussi que nous, on regarde notre responsabilité en tant que commentateur. Moi, je dis pas que nous, à Marmite, on a une grande responsabilité, mais même, en général, les commentateurs, en général. Tu ne peux pas, je vais faire de la psychanalyse de bazar, hein, mais tu peux pas, à un moment donné, après la Coupe du Monde qu'a faite Kylian Mbappé, après toutes les éloges que lui ont dressé tous les médias français, c'est le meilleur, c'est peut-être Pelé. En plus, Pelé, il a envoyé un tweet pour dire que oh là, c'est le futur Pelé, etc., etc. À un moment donné, quand tu n'arrêtes pas de dire à quelqu'un qu'il est beau, même s'il est moche, il finit par le croire et par être persuadé qu'il l'est. Donc lui, pour lui, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le futur meilleur joueur du monde. C'est bon, ça, il l'a intégré, son camp l'a intégré, le prix de son transfert. Et son prix maintenant qui est supérieur à celui de Neymar, maintenant c'est bon, c'est lui l'avenir du foot, quoi. Donc à un moment donné, on peut pas tout dire à quelqu'un alors que c'est un gamin et lui dire voilà, t'es le meilleur, développer dans son ego des choses tout à fait négatives et après se plaindre. Regardez ce qu'il a fait, il se croit supérieur au club. Tout le monde n'arrête pas de dire indirectement, même Gilles Bombard, qu'il est au-dessus du club. C'est le meilleur. Vraiment, c'est le meilleur. C'est un crack.
Il y a être le leader technique sur le plan sportif, sur un terrain de foot. Et après, respecter son club, respecter sa direction, respecter son coach, respecter les supporters. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il en a eu quelque chose à carrer hier quand il a fait cette déclaration.
Oh, mais en quoi il respecte pas son club en disant ça?
Ben parce qu'il sait très bien les conséquences qu'auront ces déclarations. Enfin, tout le monde dans la foulée, mais tous les journaux en ont parlé. C'était alerte rouge au quotidien Marca en Espagne. Enfin, tous les journaux ont fait la une.
C'est le contexte qui fait que c'est pas respectueux, quoi.
Mais en plus, enfin, c'était calculé. Il dit très bien Mbappé. En plus, bon, c'est bon, j'ai fait passer mon message. Il le dit dans les coulisses clairement. Voilà, il savait très bien ce qu'il faisait et il en connaissait toutes les conséquences. Et toutes les conséquences, c'est que il met un petit peu en PLS tout le club aujourd'hui.
Bah écoute, peut-être que Mbappé est plus intelligent que qu'on le pense. Si suite à cette déclaration. L'année prochaine, tu vois que le PSG a recruté un des meilleurs récupérateurs du monde et que Mbappé reste au club. Peut-être que tu pourras dire que Mbappé a fait flipper le club volontairement en disant bon les gars, c'est bien beau d'avoir acheté Neymar et moi-même, mais de pas investir sur des joueurs. Il nous faut des joueurs clés au poste. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire ça, écoutez. J'ai peut-être commencé à écouter du côté de l'Espagne.
Du Real, etc. Moi, je suis sûr de ça.
C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Après, moi, je ne connais pas Kylian Mbappé. Je ne connais pas son clan. Donc, je ne sais pas.
Bon, messieurs,
c'était certainement la meilleure manière.
Ouais, je pense.
Ça a déclenché une tempête médiatique.
Qui oblige une réaction, en fait.
Qui oblige à une réaction. On ne peut pas rester comme ça face à ce qu'il a dit. Donc, voilà.
Bon, messieurs, je voudrais qu'on évoque ensemble un petit peu l'actualité des autres clubs de Ligue 1 et surtout celle du top 6, puisque le PSG n'est pas le seul club qui va voir son effectif et pas son staff chamboulé, puisque on apprend que les staffs de Saint-Étienne, de Lyon et très probablement de Marseille vont être modifiés la saison prochaine. Ma question est la suivante, qui perd le plus et qui gagne le plus au change, sachant qu'on connaît simplement l'identité du staff de Lyon pour l'année prochaine. L'entraîneur sera Silvinho, celui qui était l'adjoint de Tite, l'entraîneur de la Seleção, l'équipe du Brésil. Donc aucune expérience en tant qu'entraîneur principal. Et qui est proche de Juninho, qui va prendre le rôle de directeur sportif au sein du club.
Écoute, Silvinho, c'est un pari, hein, parce que jusqu'à présent, tu viens de le dire, il a surtout été assistant.
Je pense que c'est je sais pas si c'est un bon pari, mais en tout cas, c'est un pari intelligent, parce que ce qu'on reproche à Jean-Michel Aulas depuis quelques années, c'est de ne plus vraiment s'intéresser au côté sportif et plutôt être dans ses finances, dans la salle de spectacle là qui veut ouvrir, etc. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est il donne un peu une partie des clés du camion à Juninho et il lui dit bon mon gars, vas-y. Je pense qu'il y a eu un dialogue entre les deux. Je pense que c'est Juninho qui a impérativement voulu que Silvinho vienne. Donc je pense que Jean-Michel Aulas se retire un petit peu du côté sportif et laisse la place à Juninho. Et là-dessus, c'est une bonne chose.
Moi, je crois pas une minute. Moi, je pense que après les difficultés rencontrées entre notamment les supporters et Bruno Genesio, et également, la difficulté peut-être pour Lyon de recruter un entraîneur de qualité au vu du budget qu'il faut maintenant pour recruter un entraîneur de qualité.
Tu penses qu'ils veulent faire illusion?
Je pense que Juninho, c'est celui qui, il fait l'unanimité auprès des supporters et auprès du président, tout ça. C'est quelqu'un qui connaît bien Aulas, qui sait comment il fonctionne. Mais le fait qu'ils aient pris un entraîneur comme Silvinho, moi, ça me paraît incompréhensible. Soit on considère que Lyon, c'est une équipe de, c'est pas une grande équipe d'Europe, et du coup, un entraîneur débutant. Enfin, pas débutant, mais un entraîneur qui a été assistant. Il a été assistant à Cruzeiro, il a été assistant au Corinthians, il a été assistant pendant un an ou deux ans à l'Inter de Milan. Et là, il était avec le Brésil. Mais c'est un assistant.
Ouais, bon, après, il faut bien débuter un jour ou l'autre. Hein,
oui, pour être mais entraîneur. Si tu débutes un jour ou l'autre, tu es d'accord avec moi que débuter par un club qui vise non seulement une qualification directe en Ligue des Champions, mais qui vise aussi de faire un petit parcours quand même en Ligue des Champions.
Et un titre.
Là, il n'a pas commencé avec Metz ou avec Dijon, quoi. Là, en fait, il commence avec un gros club.
Ouais, ben bah écoute, bon, c'est un pari, comme tu l'as dit. C'est un pari. Je pense aussi que c'est plus pour calmer, ouais. Plus pour avoir la paix sociale, parce que là, il va être tranquille pendant une année. Hein. Il aura, avec Juninho, une sorte d'immunité sportive dans les tribunes pendant un an. Et après, ouais, il faut qu'il y ait les résultats lors de la deuxième année, parce que sinon, je pense que ça va chauffer.
Ouais, mais toi, par exemple, tu sais que ça ne s'est pas forcément bien passé avec un coach qui est Bruno Genesio, à qui on reprochait notamment un manque de charisme. Voilà, tu sais, on disait souvent que ce n'est pas un grand entraîneur. Bon, allez, vas-y, c'est surtout sa carrière. Hein, on va dire que c'était un joueur, vu que ce n'était pas un joueur forcément brillant, avec un super gros palmarès, c'est pas un Zidane où il n'a pas l'aura peut-être d'un Mourinho, même si Mourinho, en tant que joueur, il n'a pas de palmarès. Mais en tout cas, passer d'un Genesio, maintenant que tu l'as mis de côté, tu prends quelqu'un qui a encore, entre guillemets, encore moins de charisme que lui, parce que c'est un joueur, en fait, qui a pris...
Ça, on va voir.
Non, là, tu prends un tandem. Tu prends pas seulement un entraîneur, tu prends un tandem.
Ouais, mais le tandem, t'es d'accord avec moi que le directeur sportif, jusqu'à preuve du contraire, va laisser à son entraîneur le soin d'être sur le banc. Le directeur sportif, il n'est pas sur le banc.
Ouais. Ouais, de composer les équipes.
Donc, c'est Silvinho qui va composer ses équipes. Même si on n'est pas bête, hein, Juninho pourra donner son avis.
On aura son mot à dire, oui.
Et le lien direct des joueurs et le terrain, c'est Silvinho. Donc tu enlèves Bruno Genesio pour nous mettre un Silvinho. Ça se trouve, les mecs là qui sont sur toi, en tant que joueur de Lyon, tu le prendrais comment? On te dit, bon, bah, Genesio, on le dégage et tout ça. Il n'a pas réussi à nous faire progresser, tout ça. Et on prend un débutant, entre guillemets.
Ouais.
C'est un débutant. Voilà, comment tu le prends? Contrairement à avoir pris peut-être un Laurent Blanc,
ouais.
Qui, quoi qu'on lui reproche, en tout cas, il a un crédit, en tout cas. Bon, il a été champion du monde, il a joué dans des grands clubs et tout ça, il a entraîné le PSG. Donc,
champion de France.
Comment ?
Champion de France avec Bordeaux aussi.
Champion de France avec Bordeaux. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui a du crédit auprès des joueurs. Mais lui, quel est son crédit auprès des joueurs ? Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en redébattre, je crois, la saison prochaine. Merci Nouradine, on va clôturer cette partie débat foot. On va faire une petite pause musicale et puis on va accueillir au téléphone Morgane Goulard, vice-présidente du club de gymnastique d'Elancourt Maurepas et qui fait partie de l'organisation pour les futurs championnats de France par équipe de gymnastique. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.
Il est 17h29, on est de retour en direct sur Marmite FM pour l'émission Parlons Sport et nous accueillons dans l'émission Morgane Goulard au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Parlons Sport. Morgane Goulard, vous êtes vice-présidente du club de gymnastique d'Élancourt-Maurepas et vous faites partie aussi de l'organisation des prochains championnats de France par équipe de gymnastique qui se dérouleront du 24 au 26 mai au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est dans quelques jours. Comment vous sentez-vous à l'approche de cet événement?
Eh bien, écoutez, un peu stressé, on va pas se mentir. À quelques jours de l'événement, forcément, tout s'active. Les derniers détails se mettent en place. Et voilà, on est tous un petit peu sur le qui-vive et tous un peu stressés. Mais voilà, on est confiants, ça va bien se passer.
Est-ce que vous pouvez nous situer un peu de manière générale le club d'Élancourt-Maurepas en termes de gymnastique, au niveau de son rayonnement à l'échelon départemental ou régional, parce que c'est un club qui a quand même des résultats probants depuis des années, c'est une grosse structure.
Oui, tout à fait. On est un club de gymnastique qui accueille à peu près 450 adhérents par an. On a à peu près 40 ans d'existence. Nos disciplines principales, c'est donc la gymnastique artistique féminine aux agrès, la gymnastique artistique masculine et après tout ce qui est baby gym et éveil gymnique. Après, en termes de résultats, c'est vrai que sur à peu près 900 clubs français, on se situe en général dans les 10 premiers. On est plutôt fiers des performances de nos athlètes. On a eu voilà déjà cette année 5 médailles au championnat de France en individuel. C'était le week-end dernier à Mouilleron de Captif. Donc voilà, on est plutôt un club qui performe, mais on a toujours envie de performer encore plus. Et on a pour ambition voilà de s'agrandir et d'évoluer et de rapporter encore plus de médailles pour nos gymnastes.
Et donc du coup, quels sont vos objectifs pour ces championnats nationaux ?
Alors pour ces championnats, en tant qu'organisateur, déjà c'est que ce soit une réussite, qu'il n'y ait pas de soucis, pas de bugs, voilà, que tout se passe comme on l'entend. Et après, en termes de résultats sportifs, nous avons trois équipes qui matcheront ce week-end-là, dont une équipe en division nationale U, donc qui est la division la plus haute sur ces championnats de France. Et voilà, on a à cœur qu'elles arrivent à reproduire ce qu'elles font à l'entraînement, ce pourquoi elles s'entraînent depuis le début de la saison. Et voilà, après, j'ai envie de dire, quel que soit le résultat, si elles font une belle compétition, ce sera déjà super et on n'aura rien à regretter.
Et donc du coup, vu qu'on parle de critères, comment ça se passe la sélection pour pouvoir participer aux championnats nationaux? Qu'est-ce qu'il faut avoir?
Alors, on passe par des phases de sélection. On a dans un premier temps la phase départementale, la phase interdépartementale et la phase régionale pour les divisions de 2 à 6. Et pour la DN1, donc qui est la division nationale 1, là pour le coup, si on a réussi à se maintenir l'année dernière, on n'a pas besoin de passer par toutes ces phases qualificatives. Et donc nous, notre équipe étant arrivée 5e l'année dernière au championnat de France, on a réussi à se maintenir. Voilà. Et l'objectif cette année, ce sera aussi de maintenir notre équipe dans cette division 1.
Le fait que le championnat se passe quasiment à domicile, c'est un avantage du coup pour vous ou ça change rien?
Je dirais que ça dépend des gymnastes. Certaines gymnastes, ça va les pousser, ça va leur mettre un peu plus d'adrénaline, un peu plus d'énergie. Le fait d'avoir le public, leurs amis et leurs familles qui les soutiennent, qui peuvent pas forcément à chaque fois se déplacer en province d'habitude. Pour d'autres, ça peut être un peu plus stressant, je pense, notamment pour les plus jeunes. On en a qui ont 12, 13, 14 ans. Je pense que pour celles-ci, ça peut être un peu plus stressant, d'autant que le Vélodrome est quand même un endroit assez emblématique et assez impressionnant pour des jeunes filles de cet âge-là. Donc voilà, je dirais que ça dépend des gymnastes et des profils.
Et donc du coup, comment vous préparez vos gymnastes?
Alors, c'est pas moi qui les prépare, puisque moi je suis vice-présidente et pas entraîneur, mais les entraîneurs entraînent ces gymnastes entre 20h et 25h, entre 15 et 25h par semaine à peu près. Et donc on se concentre sur tout ce qui est préparation physique, assouplissement, beaucoup de répétitions. La gymnastique, c'est un sport où il y a beaucoup de répétitions pour réaliser le mouvement parfait, pour ne pas chuter à la poutre par exemple. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures d'entraînement assez intenses, qui combine beaucoup de choses, mais voilà, on espère que le résultat sera là derrière.
Et donc du coup, dans quel domaine elles vont concourir dans ce championnat?
Alors, dans quel domaine? Dans gymnastique artistique féminine, il y a en fait, dans ces championnats de France, il y a deux disciplines. Mm-hmm. Les championnats de France de gymnastique artistique féminine, donc qui est pour les filles, et pour la gymnastique masculine, donc elles seront chez les féminines.
D'accord.
Donc elles concourent sur 4 agrès, saut, barre, poutre et sol. Et donc la gymnastique masculine, c'est sur 6 agrès.
Et là, pour l'instant, vous n'avez que des équipes féminines, non masculines.
Voilà, les équipes masculines ne se sont pas qualifiées cette année, mais on espère changer ça l'année prochaine.
D'accord, très bien. Donc du coup, en tant que vice-présidente, quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réussite au sein de votre club?
Je dirais que ce sera cette organisation. Si jamais tout se passe bien, je pense que pour le coup, en tant que vice-présidente, ce sera une belle fierté et un beau projet qu'on aura réussi tous ensemble. Je pense que ça permet de fédérer aussi tous les bénévoles du club, toutes les équipes qui travaillent depuis quasiment un an sur ce projet. Et je pense que ça, pour le coup, ce sera une belle réussite. Donc on va croiser les doigts jusqu'à dimanche.
Il y a un objectif précis de médaille?
Alors non, il n'y a pas d'objectif précis de médaille dans le sens où, pour vous expliquer rapidement, en gros, certaines équipes dans certaines divisions ajoutent des gymnastes étrangers ou étrangères dans leurs effectifs, ce qui fait qu'on a des petites surprises arrivées le jour du championnat de France. Donc même si sur le classement vertical actuellement, on a une équipe qui pourrait faire une médaille potentiellement en division nationale 4.
Ouais.
Malgré tout, a priori, on a quand même quelques équipes qui vont ajouter des étrangers et donc qui vont augmenter largement leur toto lors de ces championnats. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas d'objectif précis. L'essentiel, c'est d'avoir rien à regretter et de réussir ce qu'on sait faire, de réussir ce qu'on sait à l'entraînement. Parce que le stress joue énormément dans la gymnastique, comme dans beaucoup de sports. Et le mental devra être à la hauteur pour ces championnats.
Alors, je ne sais pas si on a déjà évoqué cet aspect, mais l'âge moyen des gymnastes, il sera de combien?
Alors, on a des gymnastes, il y a deux catégories, les 10 ans et plus et les 12 ans et plus. Mmh. En général, sur ces catégories-là, il y a quelques jeunes filles qui ont 12, 13, 14 ans, mais la plupart, elles ont entre 15, 16 ans et plus, jusqu'à 30, 35 ans. C'est assez large comme panel d'âge, mais c'est vrai que sur ces championnats de France, contrairement aux individuels ou même à d'autres championnats de France par équipe, on a plutôt des adolescents que des enfants très jeunes.
Et ces jeunes gymnastes que vous avez au club d'Elancourt-Maurepas, elles viennent toutes du milieu local ou alors en tant que grosse structure, vous pouvez vous permettre d'accueillir des jeunes talents d'ici et d'ailleurs?
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui viennent d'Elancourt et de Maurepas, mais on a en effet, vu que le club grossit d'année après année, on a des jeunes filles qui viennent un peu de tout le tissu de Saint-Quentin en Yvelines. On a des jeunes filles de Plaisir, d'Ampierre, même plus large que Saint-Quentin en Yvelines, de Pontchartrain, de pas mal de communes environnantes. On a même qui viennent de Bougival. On a des gymnastes qui viennent un peu de partout, même à l'extérieur de Saint-Quentin en Yvelines, si vous voulez. Ouais. Donc ça, on est plutôt content de pouvoir attirer des jeunes filles qui viennent d'assez loin pour venir au club.
Alors corrigez-moi si je me trompe au niveau des épreuves qui seront données à ces gymnastes, mais on aura un concours général individuel, du saut, des barres asymétriques, de la poutre, du sol. Quelle est la spécialité du club s'il y en a une parmi ces difficultés?
Alors, je dirais pas qu'il y a une spécialité du club, mais plutôt des spécialistes par gymnaste. Voilà. En fait, c'est le but et c'est l'avantage de ces concours par équipe, puisque ce n'est pas en individuel, mais en équipe. Donc, à chaque agré, les quatre meilleurs gymnastes de cet agré passent. Et les trois meilleures notes sont retenues pour calculer la note finale. Donc, d'où l'intérêt de composer les équipes avec des profils différents, des spécialistes au bar, des spécialistes à la poutre, etc., pour pouvoir avoir les meilleures notes à chaque agrès.
Alors, la gymnastique, c'est aussi un sport auquel on accorde une attention particulière.
Coupure, apparemment.
Une coupure particulière. aussi. Bon, en tout cas, grosse compétition, on va essayer de la rappeler, Morgane Goulard. Enfin, là, la question que j'allais lui poser, c'était, enfin, vous savez, la gymnastique, ouais. On en parle beaucoup une fois tous les 4 ans ouais. au moment des Jeux Olympiques. Et alors, tu sais, Chaïma, quelle a été la dernière gymnaste à être championne olympique?
Je pense que c'est une américaine.
Alors, excuse-moi, la dernière gymnaste française.
Ah, française. Ouais. Alors oui, là, du tout. Non,
ouais, parce qu'effectivement, les américaines trustent tout. Ouais. Simone Biles, qui est une star énorme.
Et qui a un parcours incroyable en plus. Hein.
Ouais. Elle se semée d'embûches et elle a un mental, un mental d'acier.
Qui ne la favorisait pas au début, et juste avec son mental, ouais. Et elle a réussi à devenir championne olympique.
Alors, on a récupéré Morgane Goulard au téléphone.
Oui.
Alors, on était un petit peu là dans le rêve, puisque oui. On évoquait le parcours de Simone Biles, oui. Multiple championne olympique américaine, en star absolue de la gymnastique. Mais depuis 2004, et la médaille d'or d'Émilie Le Pennec, dernière française à s'être adjugée un titre olympique, c'était aux barres asymétriques. Eh bien, tous les 4 ans, on attend un petit peu la surprise, la pépite en gymnastique qui va nous ramener une médaille. Est-ce qu'on a des pépites? Est-ce que vous avez des noms là en tête au sein de votre club d'Elancourt-Maurepas?
Ce serait un peu prétentieux de notre part de donner des noms, mais non, on n'a pas de jeunes filles qui peuvent prétendre faire les Jeux Olympiques de Tokyo, puisque ces jeunes filles sont déjà identifiées et sont déjà en pôle. Après, on a de très bonnes françaises, je pense notamment à Mélanie Deresu dos Santos, ouais. qui a fait des médailles européennes récemment, voire une médaille au championnat du monde. Donc, on a des jeunes filles qui sont très prometteuses pour ces Jeux Olympiques. Après, nous, au sein du club, voilà, on essaye... d'avoir des conditions d'entraînement qui favorisent l'accès à cette performance, mais c'est pas toujours facile. Il faut que les mairies nous suivent avec des horaires aménagés, il faut que les écoles nous suivent pour pouvoir avoir les jeunes filles en journée, par exemple, et faire des horaires adaptés pour pouvoir s'entraîner un peu plus et qu'elles ne se couchent pas trop tard. Donc tout ça, c'est des choses qui font la performance et qui nous permettent de faire grandir le club et de faire rentrer des gymnastes dans le circuit de haut niveau. On avait à l'époque Camille Coudray qui est au club et qui a fait, qui était en équipe de France et qui a permis de qualifier la France aux Jeux Olympiques de Londres à l'époque. Mais voilà, sur cette nouvelle génération, on n'a pas encore de jeunes filles identifiées dans les structures de haut niveau. Maintenant, c'est tout le travail qu'on mène au quotidien et on essaye d'aller voir les écoles, les mairies, les institutions pour nous permettre justement de développer des sections sportives et qui permettent aux gymnastes de s'entraîner. On a ouvert récemment une section sportive au collège de la Clé Saint-Pierre qui permet donc à toutes les collégiennes qui sont dans cette section de venir s'entraîner très tôt dans l'après-midi, ce qui leur permet de rentrer tout chez eux le soir pour faire les devoirs, etc. Voilà, mais toutes ces petites choses du quotidien qu'on voit pas forcément de l'extérieur, les horaires de gymnase, etc., font un tout pour accéder à la performance.
Alors j'ai une dernière question, elle concerne cet outil que vous connaissez bien, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Alors pourquoi organiser un tel événement au Vélodrome ? Qui a eu cette idée-là ?
Eh bien c'est une idée collective qui est partagée depuis un moment, ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. Moi j'ai travaillé en effet au Vélodrome pendant quelques années, avant l'ouverture et puis après. Donc c'est vrai que je connaissais bien l'outil et je me suis dit que c'était dommage de ne pas en profiter pour réaliser un événement comme celui-ci. Il n'y a pas beaucoup d'autres salles sur la communauté d'agglomération et dans les environs qui permettaient d'accueillir un tel événement au vu du cahier des charges de la Fédération française de gymnastique. Donc c'est vrai que le Vélodrome s'est imposé assez facilement comme le lieu potentiel et le lieu le plus probable d'accueil de cet événement. Et puis bon, lieu olympique quand même, ça se refuse pas.
Alors vous me corrigez si je dis une bêtise, mais en tout cas la billetterie est encore ouverte.
Oui.
Le championnat commence ce vendredi là.
Oui.
Et donc du coup les auditeurs peuvent acheter leurs billets sur www.velodrome-national.com. C'est bien cela ?
Tout à fait. Tout à fait, ils peuvent encore acheter des places. En effet, le championnat commence dès vendredi matin au Vélodrome. Et puis vendredi toute la journée, j'en profite pour faire un petit mot sur les scolaires. Oui. Nous accueillons 600 élèves des écoles de 50 ans, des écoles primaires, qui viendront donc toute la journée, sur des demi-journées à chaque fois, découvrir la pratique de la gymnastique, des différentes disciplines de la gymnastique sur l'île de loisirs de Saint-Quentin, qui viendront échanger avec des athlètes de haut niveau ou des anciens athlètes de haut niveau. On aura notamment Yuna Dufournet, médaillée mondiale, qui a arrêté sa carrière, et ils viendront également regarder la compétition. Voilà, ça nous tenait à cœur de faire cette opération avec les élèves de Saint-Quentin en Yvelines, donc je voulais en toucher un petit mot.
Dans ce cas, j'espère que les élèves auront une petite vocation, comme ça ils pourront s'approcher de votre club et découvrir cette merveilleuse pratique sportive qui est la gymnastique.
C'est gentil, merci.
Merci beaucoup Morgane Goulard, soyez nombreux et nombreux à aller au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, du 24 au 26 mai pour les championnats de France par équipe de gymnastique. On va faire une petite pause musicale ou alors est-ce qu'on fait le flash local maintenant ?
Allez, je suis prêt.
Allons-y alors.
Et on commence avec du foot si tu veux, Gilles, et avec l'Étoile sportive de Trappes qui est deuxième en Régional 3. Donc je rappelle que la Régional 3, c'est l'équivalent de la 8e division française. Et dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Trappes est l'équipe la plus haut classée. Déjà parce que l'Étoile sportive, c'est le seul club à jouer au niveau régional. Et donc Trappes est deuxième à 2 points du premier, Boulogne-Billancourt. Si Trappes gagne son prochain match, qui est aussi le dernier de la saison, et que Boulogne perd le sien, eh bien Trappes sera qualifié pour la Régionale 2. Seulement, le calendrier ne joue pas vraiment en faveur des trappistes, puisque Trappes recevra les Mureaux 7e, mais Boulogne ira à Osny, qui est 10e et qui ne craint absolument pas la relégation. Mais bon, le foot réserve parfois de belles surprises, on ne sait jamais, en tout cas ça n'enlève en rien la superbe saison des trappistes. On va redescendre d'un cran maintenant en départemental 1, Guyancourt est 5e, et s'est payé le luxe d'ailleurs ce week-end de battre les premiers Marly-le-Roi. Dans le même championnat, Morpa est 6e et puis Plaisir est avant-dernier. Le FOP est allé perdre 6-3 sur la pelouse de Montesson ce week-end. Plaisir sera donc probablement relégué en Division 2 la saison prochaine. On reste à Plaisir, mais en handball cette fois. Plaisir qui est l'un des meilleurs clubs de hand des Yvelines. La preuve en est, le club évolue en National 3, donc en 5e division. C'est le seul club de l'agglomération à ce niveau. Et puis Plaisir est donc 10e de sa poule, ce qui signifie qu'on les reverra la saison prochaine à ce niveau. Et puis on termine avec du baseball et les Cougars de Montigny-le-Bretonneux qui sont pour le moment 2e de leur poule. Montigny qui évolue en Division 1, donc c'est vraiment c'est pas mal. C'est même très bon.
Merci Julien. Et nous allons dès à présent parler de basket et rediffuser l'interview d'Olivier Bocquel, vice-président du club de basket de l'entente Le Chesnay-Versailles. On va revenir avec lui sur le bilan de cette équipe, le bilan de la saison de l'équipe versaillo-chénésienne et revenir également sur les prochains événements qui vont animer la vie du club, le développement d'une future section féminine. C'est tout de suite l'interview d'Olivier Bocquel. Bon, on va demander à Olivier Bocquel si le fait d'avoir envoyé des jeunes du club de Le Chesnay-Versailles à Los Angeles ces derniers mois a pu donner des idées aux jeunes, le système universitaire de basket, le modèle américain, la NBA, le fait de participer à la draft. Expliquez-nous comment s'est organisé ce voyage au sein du club.
Eh ben, c'est maintenant la 7e année consécutive qu'on a donc ce système d'échange qui nous permet d'envoyer une équipe. Alors ça a été alternativement filles-garçons et puis là c'est deux années consécutives où on envoie des garçons qui ont l'occasion de s'entraîner tous les soirs de la semaine avec des lycéens du lycée international de Los Angeles puisque c'est avec ce lycée qu'on a notre partenariat. Et puis au cours du week-end, le samedi, ils ont la chance de jouer au Staples Center un tournoi en levée de rideau. Alors c'est un levée de rideau en matinée par rapport au match de NBA qui se joue le soir. Cette année c'était le match Clippers contre les Brooklyn Nets. Et dans la journée, ils ont l'occasion, à l'initiative du lycée international, de faire un certain nombre de visites. Par exemple de visiter les installations de UCLA, de l'université de Los Angeles. Et forcément ça fait rêver parce que quand on voit ne serait-ce que les installations sportives, je pense que tout le monde rêve un jour de pouvoir étudier et de pouvoir être dans cet environnement. Donc oui, je pense qu'ils reviennent avec des étoiles plein les yeux et forcément, ça donne envie. Alors, un scoop, l'an prochain, le LCV ne présente personne à la draft. Mais je pense que c'est un rêve que beaucoup caressent.
Ah, mais en tout cas, nous allons peut-être présenter nos propositions d'adhérer à l'ELCV en trafiquant un petit peu nos âges et puis pour faire partie de la petite délégation aller aux États-Unis. Ça prend une grande partie du budget, le fait de financer chaque année des voyages comme celui-là. Vous avez des partenariats forts au niveau du club?
Bah, le premier partenariat, c'est effectivement qu'on répond à l'invitation du lycée international. Il se trouve que le responsable un petit peu des activités extrascolaires du lycée international de Los Angeles est un Français, une personne originaire de Versailles. Et c'est à son initiative que ce partenariat s'est créé. Donc tout ce qui est encadrement, hébergement, tout ça est pris en charge par le lycée international de Los Angeles. Il nous reste bien effectivement à aider au niveau du transport, mais ça reste compte tenu du caractère extraordinaire de l'expérience que ça représente, ça reste un effort qui est tout à fait raisonnable, on va dire.
Alors, Olivier Bocquel, votre club, l'entente Le Chesnay-Versailles, fort de 800 adhérents à peu près, c'est l'un des premiers clubs...
On a passé la barre des 800 cette année, effectivement.
Ouais, c'est l'un des premiers clubs en termes d'adhérents au niveau de la région. Voire au niveau de la France.
Oui, on doit probablement être le deuxième plus gros club français en termes de nombre d'adhérents.
Et vous rayonnez sur toutes les catégories, filles, garçons et chez les jeunes. Quelles sont les sections qui marchent en ce moment-là?
Je dirais que notre ambition, elle est d'offrir la possibilité de pratiquer le basket à tout type d'adhérents et quel que soit son niveau. Alors, bien sûr, il y a l'aspect compétitif. Et là, on va des plus jeunes, dès l'âge de 4 ans, avec une école de basket, école de mini-basket qui est labellisée Fédération Française, jusqu'aux anciens. On a des équipes d'anciens, en passant effectivement par les U13, U15, U17. Des équipes en association aussi pour la partie élite, pour les garçons avec le club de Poissy et pour les filles avec le club de Maurepas. Et puis, on a aussi un volet très important pour nous qui est les pratiques, je dirais, les autres pratiques qui s'adressent à d'autres types d'adhérents. Ça peut concerner, par exemple, un public d'handicapés moteurs et on a deux sections de sport adapté qui comptent jusqu'à 40 adhérents. On travaille avec les principaux centres qui s'occupent de ces publics au niveau des Yvelines. On ouvrira à partir de l'an prochain une section basket-fauteuil, donc handi-basket. là aussi en partenariat avec deux institutions qui sont les EREA de Vaucresson et de Garges. Donc voilà, une pratique, je dirais, qui s'adresse vraiment à tous et qui permet à chacun, quel que soit son niveau, élite, pratique de loisirs, pratique simplement de pour progresser, pour se réaliser soi-même, donc une pratique ouverte à tous. Donc effectivement, on couvre un public très très large.
Et vous fêtez les 20 ans du club cette saison, alors ce sont les 20 ans de la fusion.
Absolument, puisque absolument. Il y avait historiquement deux clubs à Versailles, un club féminin, un club masculin, et puis un club mixte au Chesnay. Et en 99, ces trois entités ont fusionné pour ne faire plus qu'une, d'où notre logo Tous pour un. Et donc ça a donné naissance à ce club qui s'appelle l'Entente Le Chesnay-Versailles, et qui, de ce fait-là, après avoir connu dans un premier temps une perte de licenciés, après la fusion, ben, progressivement s'est reconstruit. Et c'est un petit peu comme ça qu'aujourd'hui, on est devenu un gros club en termes de licenciés.
Ouais, donc un mariage plutôt réussi. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres disciplines où, malgré voilà, les encouragements qu'on peut voir de la part de la communauté d'agglomération ou du département sur la mutualisation des moyens et sur des fusions de structures sportives, on a encore beaucoup de Versailles, le Chesnay, qu'on appelle dans le jargon yvelinois, quand il y a un match entre les deux clubs, un château tico. Voilà. Parlez-nous un peu de vos sections seniors là, chez les filles et puis chez les garçons. Vous êtes en pré-national au niveau de l'équipe masculine pour remonter en National 3, un échelon que vous aviez déjà atteint ces dernières années.
Effectivement, donc ben, on avait connu quelques saisons plus difficiles. On était redescendu jusqu'au niveau de la Régional 2. On a été champion de Régional 2 l'an dernier. On est en pré-national cette année et on s'est qualifié pour la phase de play-off qui commence à partir du 11 mai pour, on l'espère, retrouver une place au niveau de la National 3 qui correspond à une ambition, je dirais, raisonnable pour le club. Ça, c'est pour l'aspect masculin. Deux montées successives, ce serait, je dirais que ce serait une belle réussite, mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Côté féminin, on a également été amené à descendre l'an dernier au niveau de National 3, et puis ben, on espère faire l'ascenseur. On est aujourd'hui qualifié pour les play-offs de remontée en National 2. Le premier match a eu lieu ce week-end, nos filles ont été jouées à Ronchin. Elles ont gagné et il leur reste un match à gagner sur les trois à venir pour se retrouver leur place au niveau de la Nationale 2 féminine. Donc effectivement, au niveau de nos deux équipes Fagnon, je dirais des résultats très encourageants et puis une fin de saison palpitante.
Donc encore des perspectives réjouissantes pour les équipes masculines et féminines. C'est aussi le cas pour les jeunes. Il y a encore des échéances à venir là en termes de finale, notamment la Coupe de France.
Absolument. Alors, Coupe de France, malheureusement, on a été éliminé en 16e de finale avec notre équipe cadette, enfin cadet garçon. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de nos équipes sont engagées, que ce soit au niveau régional ou engagées pour jouer le titre au niveau yvelinois. Et puis, je vous parlais des deux équipes que nous avons en association. En union, pour être tout à fait précis. Donc, DU18, qui sont une équipe en association avec le club de Poissy, et qui cette année ont été gagnés leur place pour le Final Four du groupe B. Donc, grosso modo, le championnat de France est constitué de 48 équipes. Elles font partie du groupe B, donc des 24 équipes suivantes, sachant que dans le groupe A, ce sont essentiellement des clubs de formation de clubs pro. Et ce week-end, cette équipe a été à Auch battre et le SMUC, donc le Marseille Université Club, et Roanne pour gagner sa place dans le Final Four. Et de la même façon, nos U15 féminines, qui est une union avec le club de Maurepas, s'est qualifiée de la même façon pour le Final Four Championnat de France groupe B et elles joueront le week-end prochain à Vichy.
Elliot, une question.
C'est quoi vos ambitions pour le futur? Parce que vous avez quand même 800 adhérents, donc un bon paquet. Qu'est-ce que vous, à long terme, quels sont vos objectifs? Si c'est pour monter encore plus haut que la National 3, si c'est juste des ambitions comme ça, et au niveau des féminines, c'est quoi votre ambition
Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais la détourner un petit peu. La première ambition, c'est vraiment celle que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment d'offrir cette pratique du basket à tous et en fonction des niveaux. Parce que finalement, certes, il y a le niveau auquel on joue et le bout du chemin, mais ce qui compte, on le dit souvent, c'est le chemin pour y parvenir. Et il y a autant de satisfaction, que ce soit pour les encadrants ou pour les pratiquants, à voir un jeune apprendre à faire un premier double pas, à voir une personne en situation de handicap faire son premier shoot réussi. Donc, c'est vraiment l'ambition qui anime le club. Après, on a forcément une partie sport de compétition, sport élite. Je pense qu'un niveau raisonnable pour nos équipes Fagnon, c'est celle qu'on est en mesure d'obtenir l'an prochain, c'est-à-dire une équipe féminine au niveau de la Nationale 2, une équipe masculine au niveau de la Nationale 3. Pour resituer les choses, c'est le deuxième niveau amateur. Hein, en féminin, il y a deux ligues professionnelles et puis Nationale 1, Nationale 2. En garçon, il y a deux échelons pro, la Pro A, Pro B, et puis la Nationale 1 qui est virtuellement un championnat professionnel. Et donc là aussi, être en National 3 au deuxième niveau, deuxième meilleur niveau amateur, ça nous paraît une ambition raisonnable, en mesure aussi avec les possibilités financières du club, bien évidemment.
On imagine que vous êtes constamment à la recherche de partenariats, et on est dans un contexte où bien, les moyens sont de plus en plus complexes, les moyens mis à la disposition de ces associations sportives sont de plus en plus durs à trouver, donc suppression des emplois aidés, diminution des conseils techniques au niveau des fédérations sportives. Est-ce que ça a un impact concret pour vous au niveau local, toutes ces réformes?
Alors la partie conseiller technique nous impacte moins et c'est plus un sujet, je dirais, fédéral. Par contre, effectivement, les emplois aidés, un club comme l'Entente Le Chine et Versailles, il faut savoir que nous sommes aidés sur un certain nombre de contrats d'apprentissage. On en a de manière très régulière deux ou trois en contrat. On a également des emplois aidés CNDS. Donc effectivement, la restriction budgétaire, elle nous impacte. Et on est obligé, comme vous l'avez fort justement signalé, de faire des démarches auprès de partenaires privés qui sont capables de nous apporter des supports pour nous soutenir dans nos actions. Et encore une fois, nos actions sont très diverses. Donc, un impact forcément, sachant que je crois qu'il est clairement compris et intégré par tous les clubs que le système traditionnel de clubs fonctionnant essentiellement sur les subventions publiques, en tout cas, est à sa limite et a commencé d'ores et déjà à se réduire et se réduira encore dans le futur. Donc, charge à nous d'aller chercher des gens que le sport et que toutes les valeurs que le sport véhicule. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement ouvert à toutes les nouvelles pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Charge à nous d'aller chercher des gens que ce type d'action peuvent motiver.
Alors, un dernier mot, je suis auditrice ou auditeur de l'émission. Je vous écoute, je vais faire du basket à Versailles au Chesnay. On peut vous retrouver où la saison prochaine?
Alors, la meilleure chose, c'est de consulter notre site. On a un site qui s'appelle ELCV78, sur lequel on trouve toutes les informations, que ce soit les plannings d'entraînement, que ce soit tout ce qui fait l'actualité de notre club. Alors, vous verrez qu'il est relativement bien fait. On a une nouvelle identité visuelle à partir de cette année.
Un nouveau logo, j'ai vu ça.
Absolument, ce qui d'ailleurs est une dépense significative pour le club, puisqu'on a changé tous nos équipements. Pour une trentaine d'équipes engagées en compétition, ça représente un budget significatif. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'occasion des 20 ans, c'était l'occasion de se doter d'une nouvelle image. Donc un site internet, une page Facebook sur laquelle on retrouve toutes les informations et toutes les actualités du club.
Merci Olivier Bocquel, vice-président de l'Entente Le Chesnay Versailles, club de basket. Et puis on rappelle aussi que certaines de vos sélections participeront à la journée de basket féminin organisée dans les Yvelines. Au mois de juin, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci en tout cas.
Absolument. Dans le droit fil de ce que je vous disais tout à l'heure, on participe aussi aux Olympiades du Vivre Ensemble qui ont lieu à Versailles, qui sont ouverts à tout public, valide et déficient, que ce soit moteur ou basket-fauteuil. Et on anime deux stands à cette occasion-là, le 11 mai à Versailles.
Vous faites bien de le préciser.
Merci Olivier Bockel d'être venu et puis bien plein de courage pour la suite de la saison pour vos équipes. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi prochain dans Parlons Sport sur Marmite FM en direct de 17h à 18h. Bonne soirée, bonne semaine à tous.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.